n'est pas hétérosexuel. On le devient pas toujours.
La déprave.
Une émission transpédéguine et féministe.
Ni homme, ni femme, transpédéguine.
Le genre, ça se construit, le corps aussi.
Votre hétérosexisme n'a fait que nourrir notre rage. Votre haine n'a fait qu'embellir nos amours. Aujourd'hui, plus que jamais, nous ne voulons ni de votre sexualité bénitier, ni de votre normalité, ni de votre ennui, ni de votre aliénation, ni de votre intégration dans ce système patriarcal capitaliste raciste, nourri de la domination des unes sur les autres.
Une émission transpédéguine et féministe.
La sodomie,
ça ouvre l'esprit.
Michel Gobert, mixing the music.
Mon Dieu,
vos normes sont trop étroites pour nos réalités.
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 Rêve de princesse, vie de cauchemar.
Une émission transpédéguine et féministe.
New Modern Blondie. Because there's no limit.
La déprave. La déprave, la déprave, la déprave, la déprave.
I think she looks great.
La déprave, la déprave.
I think they're marvelous people.
Sur Radio Canu.
La plus des radios.
La plus rebelle des radios.
Votre intégration, c'est la désintégration de nos passions. Nous ne cherchons pas à imiter ceux qui nous ont constamment réprimés. Vos images, vos clichés, vos jouissances virtuelles et marchandes ne nous intéressent pas. Nos amours et nos sentiments ne se normalisent pas. Nos corps ne se commercialisent pas.
Sauf si c'est
notre
choix.
Nous ne sommes pas capitalisables. Nous sommes ingouvernables.
Une émission trans-pédé-gouine.
Enfin, surtout trans-pédé-gouine.
Salut.
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 Bonjour.
Bon bah on va commencer par les événements. Ce samedi à 17h à la librairie Été d'Esprit qui est 19 rue Royale au métro Croix-Paquet Hôtel de Ville. Il y a une rencontre autour d'un bouquin et voilà qui est d'Axel Stéphane. Ça s'appelle Les filles ont la peau douce. C'est un guide sympathique pour les filles qui aiment les filles. Le désir entre filles, l'amour entre filles et ses questionnements, ses peines et ses joies, alors qu'on s'éveille à ce désir, quel que soit son âge et les circonstances, il semble n'exister que pour soi. Donc voilà. Et sinon, aujourd'hui, à partir de 18h, il y a une nouvelle boîte de lesbiennes qui fait son inauguration. Donc moi, j'ai lu que si on amenait une vieille clé, on avait un shooter offert.
Une quoi ?
Une vieille clé, rouillée, voilà. Et c'est au domaine, c'est 9 rue du Jardin des Plantes, dans le premier. Donc voilà, il y a les UEH, les universités d'été euroméditerranéennes de l'homosexualité, du 19 juillet 2009 au mardi 28 juillet 2009. Vous tapez UEH sur un moteur de recherche et vous atterrissez sur le site pour réserver des places. Après, on passe aux infos. Donc ça se passe au Kenya. Il y a des femmes qui ont été répudiées par leur mari et bannies de leur communauté après avoir été violées par des soldats britanniques qui ont décidé de créer leur propre village non mixte avec leurs enfants. Donc leurs anciens maris, ils ont décidé aussi de créer un camp juste à côté. Ils font régulièrement des battues à l'intérieur où ils vont en tuer quelques-unes, enfin voilà. Et fou de jalousie. Mais le village non mixte femme prospère, a une économie qui marche super bien. Elles font venir des touristes qui prennent des petites photos et tout ça. Elles font en sorte que tous les enfants allaient à l'école. Là, de ce qu'elle disait, c'est que la société kényane, elle est assez patriarcale. Genre, elles s'occupent un peu de tout pendant que leur mari faisait un peu rien. Et là, elles élèvent les garçons pour qu'ils fassent autant de tâches que les petites filles. Et ça se passe comme ça. Et il n'y a plus. Elles ne refusent de pratiquer l'excision. Donc là, on va parler du phare dans l'émission spéciale Gwyn sur Radio Canu.
Dans le monde sans prétention, on a mauvaise réputation. Qu'on s'émette, qu'on reste quoi ? Tout le monde nous montre du doigt. On se fait pourtant, on ne sera personne. Si on est un gars et qu'on aime un homme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on est ailleurs que notre queue. Non, les braves, j'en aime pas que l'on est ailleurs. notre queue. Tout le monde se rue sur nous. Mais notre patience est à bout. Qu'on aime une fille ou un gars, cela ne vous regarde pas. Il faudra vous faire une raison de la chance. Nous ne portons plus le triangle rose. Au grand jour, nous apparaissons. Et vive la révolution. Au grand jour, nous apparaissons. Et vive la révolution. Paraît que nous faisons pitié, parce qu'en ventre lit douillet, nous n'acceptons pas selon lui de loger chez nous un phallus. Nous nous manquons bien cependant des hommes, quand nous sommes de la croque et la pomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on fasse fi de leur belle queue. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on fasse fi de leur belle queue. Tout le monde se rue sur nous. Mais notre patience est à vous. Qu'on aime une fille ou un gars, cela ne vous regarde pas. Il faudra vous faire une raison de la chose. Nous n'apparaîtrons plus le triangle rose. Au grand jour, nous apparaîtrons. Et vive la révolution. Au grand jour, nous apparaîtrons. Et vive la révolution.
Bon, bah, c'était une chanson de Françoise Debonne, une des leaders du phare. Et maintenant, on va parler du phare, du Front homosexuel d'action révolutionnaire.
C'est eux, nos grands-mères.
Voilà.
Enfin, pour moi, plutôt les mères.
Donc, il fut principalement créé par des lesbiennes qui ne se retrouvaient pas dans le MLF parce que le MLF avait des problématiques plutôt hétérocentrées. Donc elles ont commencé après à militer un peu avec un groupe d'homos qui s'appelait Arcadie mais qui était légèrement misogyne. Le 5 mars 1971, le groupe interrompt un meeting contre le droit à l'avortement. Le 10 mars 1971, là elles font une grosse action. Il me semble qu'il y avait presque que des Gwyn à l'intérieur et peut-être un ou deux PD. Et c'était lors d'une émission de Méni Grégoire sur RTL, si je ne me trompe pas, qui s'appelait « L'homosexualité, ce douloureux problème ». Et c'était une émission qui était assez homophobe, où ça a vite dérivé là-dessus, sur des bons propos bien homophobes, comme on aime. Donc voilà, et en fait, le discours les a poussés à attaquer la présentatrice pendant l'émission, qui a dû prendre la fuite, et c'est là que le phare est un peu vraiment né. Donc voilà. Après, le groupe, il s'est fait fortement médiatiser. Il y a de nombreux homos qui sont arrivés dans le groupe. Et ça a lancé une nouvelle dynamique un peu après mai 68, comme quoi on n'était pas juste travailleurs de gauche, mais on pouvait aussi être PD, travailleurs de gauche, et se battre contre les hétéroflics. Donc, est-ce que quelqu'un veut expliquer qu'est-ce que sont les hétéroflics? Non. Non, bon. Les hétéroflics, c'est les hétérophallocrates. Enfin, c'est la pensée phallocrate dominante. Donc, voilà. Ensuite, il y a eu le 1er mai également, où il y a eu une marche qui a été faite avec le slogan « Travailleurs de tout pays, caressez-vous, nationalisez les usines à paillettes ». Voilà, abat les hétéroflics. Et nous sommes un fléau social. Donc, oui. Le groupe s'est exprimé dans un journal gauchiste qui s'appelle Tout. Il revendique la liberté sexuelle de tout individu. Une déclaration fait référence au manifeste des 343 salopes. Alors, je cite, « Nous sommes plus de 343 salopes. Nous nous sommes fait enculer par des Arabes. Nous sommes fiers et nous recommencerons. » Le numéro a été saisi par la police et le directeur de publication, Jean-Paul Sartre, poursuivi en justice. Mais bon, il y a eu un arrêté du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnel les atteintes à la liberté d'expression en juillet 71. Et il y a eu... les poursuites ont été cessées. Donc voilà. Donc le phare dénonce principalement l'hétérosexisme, la médicalisation de l'homosexualité. Ils perturbent, ils aimaient bien perturber les meetings, faire ce qu'on appelle des apps aujourd'hui. Donc voilà, ils ont ainsi perturbé le congrès international de sexologie à Saint-Rémy en 1971, ainsi qu'en, dans des meetings politiques, celui du PCF à la Maison de la Mutualité, où Jacques Declos leur dit « Allez vous faire soigner, bande de pédérastes, le PCF est sain. » Alors, ensuite, ça a commencé un peu à capoter, parce qu'il y avait de plus en plus d'hommes dans le collectif du Phare qui développait leur lutte en fonction de leur propre centre d'intérêt et en oubliant un peu les bases féministes du Phare, qui étaient importantes. Donc voilà, et peu à peu se sont formées les Gouines Rouges pour lutter davantage contre le sexisme et la phallocratie. Également, en autre groupe à l'intérieur, il y a eu les Gasolines. Si quelqu'un veut en toucher un mot, sur qu'est-ce que
c'était, c'était des phalles, c'est ça?
Ouais.
C'était, moi, je sais pas grand-chose, à part que c'était des folles, et du coup, elles se séparaient un peu du reste du Phare, qui était devenu plus genre gay, dans un truc assez... enfin, qui devenait mainstream, en fait.
Mais surtout, elles, enfin, c'était des... elles privilégiaient, en fait, l'activisme de rue, la provocation... elles étaient assez colorées, elles s'en prenaient aux voitures, aux passants, et elles aimaient aussi bien foutre le bordel dans les réunions, parce qu'elles trouvaient que dans les réunions, c'était des prises de pouvoir, justement, et elles squeezaient aussi les réunions du Phare, en fait.
Ouais. Et elles avaient fait un scandale aussi, enfin, il y avait eu un gros scandale, parce qu'un coup, il y avait, je sais plus comment il s'appelle, un maoïste qui s'était fait tuer par un vigile de Renault, et elles, pendant la manif, elles avaient renversé un camion de policiers, et pendant, en fait, c'était l'enterrement. Il y avait plein de policiers, elles avaient renversé un camion. Donc c'était un peu le gros scandale. Donc voilà. Donc il y a eu les journaux Fléau Social, Antinorme. Il y a eu aussi la publication du rapport contre la normalité qu'on peut trouver dans tous les bons infokiosques. Donc voilà, en 1971. Et il y a eu un épais numéro spécial de la revue Recherche, dirigé par Félix Guattari. Voilà. Et oui. Donc après, on va parler des Gouines Rouges. Et pourquoi il y a eu scission entre les Gouines Rouges et le Phare?
Et parce que peut-être c'est important de recentrer à un moment donné et de rappeler que la thématique de l'émission d'aujourd'hui, c'était Gouine et féminisme. Et c'est pour ça qu'on a fait un historique pour arriver à nos fameuses Gouines Rouges, voilà. Tout ce qui s'ensuit.
Peut-être juste une précision avant que tu continues. Tu as dit tout à l'heure que l'homosexualité était pathologisée, oui, d'une part, mais il ne faut pas oublier que c'était un délit et que ça allait rester jusqu'en 1981. C'était donc puni par la loi, l'homosexualité.
Okay. Est-ce qu'on met une petite chanson avant de continuer?
Ouais.
Ouais, allô?
Ouais, allô, c'est moi.
Ça va?
Alors?
Ah ben, quoi alors?
La meuf, regarde ça. T'as serré sec.
Ah, tu sais, non?
Oh, putain, tu l'es la totale.
La totale.
Eh, sans doute, tout. T'as moyen de récupérer.
Mais tu sais quoi, je la garde encore un petit peu, quelques jours, là, puis je suis affaire.
Casanova, c'est l'histoire de trois types qui collectionnent les jolies jeunes filles chez ma classique. Aujourd'hui, et par les temps qui courent, à Zboule, tu sais que je préfère marcher seul.
Je suis misogyne, pas le prince, t'envers les meufs, pas diplomate. Diplômé de la rue, mon but, faire bouger le cul des miss. Je me mis entre leurs cuisses, à la stabilesse comme Artemis. Priant, marcher là, pour les femelles, c'est pas pisse. C'est pas l'envie de palper qui m'excite, mais ton bureau plus vite. Après t'es ça, j'ai tout ce qu'il faut, il faut quand elles veulent. J'ai pas la grande gueule loin de là, mais j'ai envie. Plus grande plaisant entre la fille et la mère, c'est clair, je préfère un moment.
Wesh, les petits vassaux, un maigre, ingo, Casanova, j'découvrirai vos corps vierges comme Terra Nova, je suis pas difficile. L'important c'est que vous soyez effacés, chaud style, adverse et les styles, gros, bientôt aussi, j'ai l'esprit moi tout. Je vois la cour, je suis pas romantique, ouais, c'est direct, je te sortirai pas de phrases en gré quantique, mon vrai quantique, la mélodité, sous mes coups de trick, c'est comme le flic, je dégaine, c'est après que tu m'expliques.
Mais il est
dingue
ce type, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il parle des femmes comme ça, et il a pas honte, hein? Et il se croit où là, hein? Il croit qu'il sort d'où? Il faut que je lui rappelle, il sort du corps de sa mère.
A vous, c'était un mot fidélité pour la vie. Je vous dis,
c'est juste pour une nuit, bébé.
Man, c'est ta mani, mani, c'est les mêmes formes, mini, mini, mani. Comme le vata, lady, comme tu le relevas ta mami.
C'était un mot fidélité pour la vie. Je vous dis,
c'est juste pour une nuit, bébé.
Man, c'est ta mani, mani, c'est les tout des pour nani. Comme le vata, lady,
dit comme tu l'as pas là-bas ta mamie.
Alors comme ça, on se moque de moi et de ma clique-là. D'après les rumeurs où tu m'as fouetté sur un clic-clac. Pauvre type, dans ton histoire où t'as oublié, tu t'es mangé des claques dans ta route, hein. Et t'as fait quoi à tes potes, tu t'es rentré tard, mais en réalité, Kazanohra, quand même si c'est ce qui s'est passé, Kazanohra, des mecs comme toi, j'en ai vu des centaines.
Et là je prends le micro en fait sur scène pour que toutes les meufs sachent qu'après tous mes concerts sur leur sauvagesse mes tâches cachent de me satisfaire rassurer où je me jette j'ai trop de groupies
dans ma porte en charmant tant que ça s'agit
un Ricky, un vrai Rocco, séducteur hispanique je veux l'amour et j'emballe et sans même dans mes lyrics.
Et de quel droit tu te permets de juger qui que ce soit. Et elle a choisi cette voie et tu t'en plains pas un. Tu t'en vends bien pour tes potes hein, d'avoir attiré et c'est trop facile. Ce don d'un joueur fatigué, énumère donc tout tes faux, tu t'es fait refouler. Pour moi elle malin, tu sais qu'avec Lofia, y'a pas moyen. Emballé, c'est notre hobby favori, tu sais c'est pas qu'on veut jouer les féministes effarouchés. Mais l'épidémie se propage, c'est comme toi y'en a par milliers. Et si on se permet d'en parler, avec autant d'ironie c'est au nom de celles que vous avez blessées. Au nom de celles qui se reconnaîtront, qui diront c'est vrai elles. Traiter trop souvent de pétasse et de garcelle.
Y'a je me l'éteins en boîte ou en boîte, je les mets en boîte aussitôt. Je garde dans mon plumard, faut que je puisse les déjouer plus tôt. Je garde juste le numéro de phone au cas où. Je les aime bien le dispo quand ça me démange les vieux coups. Faut pas abuser comme mon bispo, je leur saute pas au cou. Je saute les bons coups comme mes potes, j'ai bon goût.
A vous, c'était un mot de fidélité pour la vie.
Aujourd'hui, c'est juste pour une nuit, bébé. Mané, c'est les mêmes formes, les mêmes les manées. Double va ta lady, quand tu double va ta mamie.
C'était un mot de fidélité pour la vie.
Donc je vais lire le texte. Ah non, excuse-moi.
Alors juste pour dire que vous venez d'entendre une chanson qui s'appelle Casanorla, qui vient donc qui a été faite par le groupe des Mafia, qui étaient des rappeuses féministes de Strasbourg. Je dis étaient parce que malheureusement ce groupe n'existe plus aujourd'hui. Et pour avoir discuté avec certaines d'entre elles, j'ai appris que ce qui passait très mal à l'époque, c'était dans les années 2001-2002. C'est qu'elles avaient une façon de chanter beaucoup trop masculine et des voix beaucoup trop masculines. Voilà.
Bon, du coup, cette fois, c'est à moi. Je vais lire un texte de Marie-Jo Bonnet sur les Gouines Rouges. Deux actions menées par le MLF en mars 1971 vont mettre le feu aux poudres. La contestation du meeting organisé par l'association contre l'avortement, Laissez-les vivre, à la Mutualité de Paris le 5 mars et, cinq jours plus tard, l'interruption de l'émission radiophonique de Ménie Grégoire enregistrée en public sur le thème « L'homosexualité, ce douloureux problème ». « Nous ne souffrons pas. Liberté !» disent les homosexuels. Le succès est total. Quelques jours plus tard se crée le Front homosexuel d'action révolutionnaire, phare. Mouvement d'inspiration anarchiste qui se développe sur le modèle du MLF. C'est un mouvement sans structure ni hiérarchie, sans président ni représentant officiel, qui accueille tout le monde, hommes, femmes, travestis, folles, bourgeois, etc. L'alliance entre les filles du MLF et les PD du phare paraît si évidente que personne ne remet en question la mixité du phare. Mais l'apparition du numéro 12 de Tout, où pour la première fois des homosexuels des deux sexes prennent publiquement la parole dans un journal d'extrême gauche, fait basculer l'équilibre entre les sexes du côté des hommes. Ils affluent au phare. Et très vite, nous sentons dépossédés du phare, de la parole et peut-être plus encore de notre libération sexuelle. Les différences sautent aux yeux à présent. Les hommes revendiquent les rôles actifs-passifs. Nous voulons les détruire. Les gasolines exhibent les stéréotypes de la féminité. Nous rejetons l'image de la femme et de l'éternel féminin. Nous parlons, ils ne nous écoutent plus. La misogynie latente est souvent humiliante d'un grand nombre d'hommes venus là pour jouir sans entrave, comme le dit un slogan. Nous décide à nous réunir à partir du mardi, tout en pensant, comme l'écrit Anne-Marie dans le numéro 12 de Tout, que notre place est à l'intersection des mouvements qui libéreront les femmes et les homosexuels. Le pouvoir que nous revendiquons est celui de nous réaliser. Nous sommes une cinquantaine, une centaine peut-être, venus de tous les horizons et dont l'âge se situe entre 20 et 35 ans. Je ne me souviens plus quand nous avons décidé de prendre ce nom de Gouines Rouges qu'un passant a lancé en nous voyant lors d'une manifestation. Nous avons distribué des actes à l'entrée des boîtes de femmes à Pigalle chez Moon, organisé une fête au Hall en juin 1971 pour fêter dans la joie le commencement de notre révolte, sortir de nos ghettos, vivre enfin notre amour au grand jour, comme disait le tract. Nous nous réunissons chez les unes et les autres et un jour, nous ne sommes plus revenus au AG du phare. Le détour par le phare n'en a pas moins été un moment important de l'évolution de la problématique lesbianisme-féminisme. En ce que, du côté des lesbiennes, il a scellé le choix de la non-mixité de manière quasi définitive. Nous devenons alors un groupe du MLF, un de ces nombreux groupes informels qui se constituaient autour d'un sujet pour préparer une action ou tout simplement explorer les motivations profondes de notre révolte. C'est un fait qui peut paraître étonnant aujourd'hui, mais nous n'avions pas d'autre revendication que vivre notre amour au grand jour. C'était un temps de genèse et nous voulions tout à la fois être visibles et ne pas nous enfermer dans le ghetto de l'homosexualité. Cette contradiction ne nous inquiétait pas. Engagés dans un mouvement iconoclaste et une dynamique de contestation radicale du pouvoir mâle, nous ne voulons plus être enfermés dans des catégories d'aucune sorte. Sisterhood is powerful, disaient les Américaines. Nous en faisons l'expérience enivrante, trop heureuse de pouvoir enfin nous unir aux autres femmes sans tenir compte de notre origine sociale, notre pratique sexuelle ou notre couleur de peau. Ce besoin d'être reconnus comme des femmes à part entière était si fort que l'essentiel de nos actions de visibilité a été dirigé vers le mouvement. Happening dans les assemblées générales sur le thème « Les lesbiennes sont-elles des femmes ?» ou « Notre problème est aussi le vôtre ». Et surtout, acte de visibilité collectif aux journées de dénonciation des crimes contre les femmes. Tenu à la mutualité le 12 et le 13 juin 1972, qui a permis de faire apparaître derrière le bonheur d'aimer les femmes, par choix politique, que promouvaient les nouvelles homosexuelles, la souffrance, l'oppression, le silence que les homosexuels de toujours avaient enduré durant les années de clandestinité. Puis les réunions des Gouines Rouges se sont espacées.
On peut revenir un peu sur les Gouines Rouges, s'il y a des gens. Sur s'il y a des courants, par exemple, qui peuvent ressembler un peu aux Gouines Rouges aujourd'hui, des choses qui se font. Bof.
Disons qu'il y a un truc un peu incomparable, malheureusement. Je sais pas comment dire. Et en plus, ça s'est transformé d'une certaine manière, et heureusement. Et en même temps, moi, je crois que c'est... Vaut mieux pas comparer, parce que ça produit rien d'intéressant, je crois, de comparer. Sinon, de se dire « Ah, merde !» Et du coup...
Mais je crois surtout que... Ça marque le démarrage, non, parce qu'il s'est passé des choses avant, mais disons que c'est un moment fort dans la construction des luttes lesbiennes, et que dans la suite des années 70, dans les années 80, ces luttes et les théories aussi ont évolué, sont nourries du féminisme et ont nourri le féminisme, et que les choses évoluent encore très très vite. Enfin, ça va être difficile d'établir des comparaisons. Parce que d'autres problématiques ont surgi, enfin on va pas aller trop vite dans l'histoire, mais avec les années CITA, ça a pris un autre tournant. Maintenant on est devant une réalité où on a encore évidemment des mouvements radicaux de lesbiennes féministes dans différentes générations, avec différentes cultures politiques. Et il y a aussi des mouvements, mouvements ou pas mouvements, des lesbiennes qui vont être politisées dans le mouvement LGBT ou dans des mouvements plus conventionnels, et qui ne sont pas forcément connectés avec le féminisme. Donc ça va être difficile, oui, de trouver quelque chose de comparable au Gouines Rouges.
Ouais, mais aussi, il n'y a pas eu des choses avec, par exemple, de la redondance, parce qu'aujourd'hui, peut-être encore dans les collectifs comme ça, comme le phare un peu, je vais pas dire héritier, mais dans les collectifs qui vont s'inspirer du phare sur mélanger, faire politique, sexualité, tout ça, en check-up, il y a des choses encore, moi j'ai l'impression, qui sont un peu redondantes sur les problèmes qu'il y a eu. Et je pense qu'il y a plein de collectifs qui ont revécu des fins du phare.
Surtout quand on voit des extraits du film de... Je ne me souviens plus du titre, mais Carole Roussopoulos a beaucoup filmé les luttes des femmes et des lesbiennes, etc. Il y a un extrait qui m'a marqué où on voit une réunion du phare où les hommes parlent. Et donc les PD parlent de leur sexualité, de leurs envies politiques, de leur lutte, de leur vision des choses, de leur théorie. Et au fond, il y a un petit groupe de 4 gouines qui fument une clope et qui regardent tout le monde avec l'air de se demander ce qu'elles foutent là.
Je crois que là... Mais c'est aussi pour ça où dans les collectifs, même maintenant, la place des gouines, ça a toujours été genre une place de dominer justement dans le phare où du coup de fait les PD avaient une place dominante parce que c'était des hommes et une place de dominé dans les mouvements féministes parce que c'était d'abord les hétéras qui avaient une place et que du coup les Gwyn se retrouvaient sur ces deux luttes et à la fois étaient dominées dans ces deux luttes en fait. Et ce que dit Marie Jobonnet dans ce truc de la non-mixité, à un moment donné, bah oui, elle est importante parce que, de fait, elles sont pas complètement entendues ni dans une lutte, ni dans une autre.
Et on est dans les années 70, il faut imaginer aussi que même en 68, ou ce que disaient les femmes du MLF au démarrage du mouvement, c'est que l'éducation, les habitudes faisaient aussi que dans les luttes, les femmes se retrouvaient à la photocopieuse. Et c'est pas quelque chose qui se déconstruit en 5 minutes entre les hommes et les femmes. Mmh. Et tu parlais aussi de la lesbophobie au sein du mouvement féministe. Et c'est quelque chose qui a gangréné les mouvements féministes en France, mais aussi aux États-Unis. Enfin, moi, je repense au témoignage de Kate Millett, qui donc a été propulsée star féministe avec son écrit, qui était en fait une thèse de fac, qui a été traduit en français « La politique du mal ». Où elle était donc parmi les icônes, les stars du féminisme, mais où les femmes du mouvement féministe aux États-Unis lui demandaient de cacher son homosexualité pour ne pas discréditer le mouvement, alors que dans le même temps, elle essayait d'être dans les luttes homosexuelles aux États-Unis.
Mmh. Mais c'est souvent ça. Mais au-delà, les questions de l'homosexualité dans les mouvements féministes, c'est ce qui a fait exploser le MLF, c'est ce qui aux États-Unis a pu faire exploser aussi d'autres trucs. Et il y a aussi, la position des Gwyn, c'est aussi le parallèle avec le mouvement des femmes de couleur, même dans le mouvement féministe, où pareil, elles étaient aussi dans une position dominée dans le mouvement féministe, elles étaient également dans une position dominée dans le mouvement des gens de couleur, parce que c'était un mouvement des hommes en fait. On parlait des hommes de couleur, on parlait jamais des femmes. Et c'est vraiment à chaque fois des parallèles de schémas d'oppression qui font que le mouvement féministe explose à des moments parce qu'il contient pas toutes les minorités. Ou... Parce qu'on parle pour des hétéras blanches.
D'ailleurs, on a tendance à prendre un peu de retard sur les États-Unis sur ce point-là. C'est-à-dire que. La remise en question par les féministes non blanches, en fait, des féministes blanches, ou par les lesbiennes non blanches, des lesbiennes blanches aux États-Unis, elle a commencé très vite dans les années 70-80. Par contre, ce sont vraiment des textes qui ont du mal à traverser la barrière des langues et de la traduction. Et on voit que cette problématique, elle a été posée, on va dire, dans les années 2000 par les féministes indigènes en France. C'est-à-dire une critique, en fait, du féminisme blanc. Raciste, enfin pas forcément consciemment raciste, et on se retrouve avec 30 ans de retard à refaire, on va dire, la même remise en question qui s'est faite aux États-Unis assez tôt.
Mais un bon exemple là-dessus, c'est là à Paris pour le 8 mars, où il y a.
Le 8 mai.
Non,
ah, 8 mars.
Le 8 mars, la journée de la femme. Ouais. Et où du coup, il y a deux manifestations différentes. Une manifestation le 7, une manifestation le 8, parce que les féministes se déchirent en termes politiques sur ces questions-là, autour du travail du sexe, autour des femmes de couleur, des Gwyn, et tout ça. Et c'est ultra malheureux, je trouve.
Je crois que c'était peut-être le même jour, mais c'était effectivement à des horaires différents. Et qu'il y avait. Parce que je crois que ce qui sépare les féministes, c'était vraiment les questions du travail du sexe et la question du voile, qui sont vraiment deux questions hyper taboues. Du coup, il y a eu des manifestations où moi, ce que j'ai entendu, c'est que des féministes qui couraient après des femmes voilées pour leur arracher leur voile alors qu'elles étaient venues à la manifestation du 8 mars. C'est quand même... Enfin, c'est glauque, quoi.
Non, vraiment. Et même de les jeter du cortège, quoi. Ouais. Enfin, c'est même physiquement...
Ouais, après on va continuer après une chanson, la progression des lesbiennes féministes, et on parlera des lesbiennes radicales.
Les musiques comme ça romantiques, ça me fait chier.
Yeah.
De retour sur Radio Déprave. Donc aujourd'hui, notre thématique, c'est les queens et le féminisme. Donc on repart sur les lesbiennes radicales avec nos invités du jour.
Alors, on m'a demandé là de vous lire un texte de Louise Turcotte, qui parle des Gouines Rouges et enfin, de différentes choses sur les luttes des lesbiennes. S'il est un nom qui est associé au mouvement de libération des femmes, c'est bien celui de Monique Wittig. Sa renommée est due très largement à son œuvre littéraire, d'ailleurs traduite en plusieurs langues. Si Monique Wittig est un écrivain marquant de la seconde moitié du XXe siècle, nul doute que ses textes théoriques en font aussi un des grands penseurs contemporains. Bien sûr, il est impossible de limiter l'influence de Wittig à un seul domaine, que ce soit la littérature, la politique ou la théorie. Sa pensée les traverse tous. C'est justement cette multidimensionnalité qui donne tant d'importance à son travail. Mais on a beaucoup écrit sur son œuvre littéraire, trop peu encore sur sa pensée théorique et politique. Puisque j'ai eu cette chance d'avoir côtoyé Monique Wittig depuis le début des années 70, je voudrais lui rendre un témoignage politique. En effet, s'il est possible de témoigner des répercussions immédiates de sa pensée, il est par contre plus difficile de mesurer son influence à long terme, notamment dans l'histoire des luttes pour la libération des femmes. Car ses essais bouleversent radicalement plusieurs des prémices que la théorie féministe contemporaine a mises de l'avant. Je parlerai ici de cette révolution conceptuelle. En 1978, à la rencontre annuelle du Modern Language Association à New York, quand Monique Wittig termina sa conférence « La pensée straight » par « Les lesbiennes ne sont pas des femmes », l'accueil chaleureux fut tout de même précédé d'une seconde de stupéfaction et de silence. Quand ce texte fut publié 2 ans plus tard dans la revue française « Questions féministes », cette stupéfaction se transforma, même chez les féministes les plus radicales, en une pression politique pour qu'une note soit ajoutée. Il valait mieux adoucir la conclusion. On ne pouvait concevoir à ce moment-là une telle perspective. C'est dire qu'une page de l'histoire du mouvement féministe venait d'être tournée par celle-là même qui en avait été une des principales instigatrices en France. Quelle est donc cette page qui a été tournée? Pourquoi ne peut-on plus voir la lutte des femmes de la même façon? C'est que justement, le point de vue s'est déplacé. Depuis le début du siècle, toutes les luttes de la défense des droits des femmes à l'analyse féministe de l'oppression des femmes, toutes partaient du point de vue des femmes. Cela allait de soi. Cette analyse s'est affinée au cours des années, s'est séparée en tendances, comme cela se passe pour les mouvements de libération, mais jamais ce consensus de base n'avait été interrogé. Il semblait d'ailleurs incontestable. Et voilà que cette affirmation, « les lesbiennes ne sont pas des femmes », viendra bouleverser tout un mouvement, tant sur les plans théoriques que politiques. S'appuyant sur les concepts du féminisme matérialiste et radical, dont celui de classe de sexe, Wittig remettra en question un point fondamental encore jamais contesté par le féminisme, l'hétérosexualité. Cette hétérosexualité n'est plus seulement considérée comme une sexualité, mais bien comme un régime politique. Jusqu'alors, le féminisme analysait le patriarcat en tant que système fondé sur la domination des hommes sur les femmes. Mais les catégories elles-mêmes, hommes et femmes, on ne les avait pas réellement questionnées. Ici, l'existence des lesbiennes prend tout son sens, puisque si ces deux catégories ne peuvent exister l'une sans l'autre, les lesbiennes, elles, n'existent que par et pour les femmes. Il y aurait donc une faille à ce système conceptuel. Durant les années 80, plusieurs lesbiennes en Europe et au Québec, notamment ce point de vue lesbianisme radical, nomment ce point de vue, lesbianisme radical. Pour les lesbiennes radicales, l'hétérosexualité est un régime politique à renverser. Nos analyses et stratégies... Nos analyses et stratégies puisent à même la pensée de Wittig. Et c'est à la lumière de cette pensée qu'il nous fallait revoir l'histoire. Lorsqu'on réfléchit l'histoire à partir de ce point de vue, Il est intéressant de constater que les premiers jalons d'une critique de l'hétérosexualité comme institution politique avaient déjà été posés au début des années 70, notamment aux États-Unis, par certaines lesbiennes séparatistes. Alors je précise que lesbienne séparatiste, c'est séparer des hommes et des hétérosexuels, donc en homicité lesbienne. Mais le lesbianisme séparatiste n'a pas approfondi cette analyse. Il a plutôt développé une visée essentialiste des valeurs spécifiquement lesbiennes, lesquelles s'inscrivent surtout à l'intérieur de communautés lesbiennes. C'est oublier que l'hétérosexualité ne peut passer que par la destruction ou la négation du lesbianisme pour assurer son pouvoir politique. Les communautés lesbiennes sont des stratégies nécessaires. Mais si on ne les contextualise pas dans l'ensemble d'un mouvement politique, elles prennent la signification d'un repli sur soi. Il s'agirait alors de créer une nouvelle catégorie. Or, seule l'abolition des catégories peut amener à un changement véritable. C'est bien ce que la pensée de Monique Wittig nous a fait comprendre. On ne remplace pas la femme par la lesbienne, mais on utilise notre position stratégique pour détruire le système hétérosexuel. Nous, lesbiennes, sommes transfuges à notre classe de la même manière que les esclaves, entre guillemets, marrons américains l'étaient. C'est une citation de Monique Wittig. Cette autre phrase clé donne une dimension politique au point de vue lesbien et il faut toujours la garder en tête lorsqu'on lit les textes de Monique Wittig. En effet, Wittig situe les lesbiennes dans un continuum de résistance propre aux diverses formes historiques d'oppression, ce qui nous éloigne par exemple du contexte de continuum lesbien tel qu'il a été proposé par Adrienne Rich dans les années 80.
Donc ouais, là, c'était pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est les lesbiennes radicales.
C'était fort.
Et je me demandais si c'était pas l'introduction à la pensée straight de Monique Wittig, le livre, parce que non, il me semble que ce texte me parle puisque j'ai lu le livre et il me semble que c'est l'introduction. Du coup, on peut le trouver dans la pensée straight.
Voilà, ou sinon, on a juste à taper Louise Turcotte sur internet. On peut le trouver aussi.
Voilà.
Donc, ouais, voilà, c'était. La pensée lesbienne radicale, ça vient un peu après, il me semble, les Gwyn Roux, c'est plutôt années 80, 90. Donc voilà, et qui s'est assez développé. Oui, il me semble qu'il y en avait pas mal en Europe et aux États-Unis et au Québec et au Canada. Voilà.
C'est... Mais en fait, c'est là que le clivage politique se creuse entre les féministes et les lesbiennes, enfin, avec le lesbianisme radical qui donc part du principe que pour détruire, pour en finir avec la domination des femmes par les hommes, en fait, il faut détruire le système politique hétérosexiste, donc avec la contrainte à l'hétérosexualité, ce qui n'est pas du tout l'analyse des féministes au départ.
Et en parallèle de ça, donc dans les années 90, il y a aussi les mouvements Riot Girl qui apparaissent un peu partout, donc avec pas mal de groupes de punk, pas mal de groupes de musique différentes. Bon, le plus connu, c'est Bikini Kill, hein, tout le monde connaît. Donc voilà, mais il y en a des un peu moins connus qui sont très très bien aussi. Et voilà, et qui naissent avec à l'intérieur, c'est des mouvements qui sont avec des féministes, des meufs qui sont gwyn aussi à l'intérieur, qui font de la musique, qui revendiquent une émancipation. Également, il y en a un, je sais pas, par exemple la Zulpes, je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe espagnol qui date du mouvement Riot Girl, mais je sais pas si elle se disait Riot Girl, qu'on par exemple une chanson c'est Me gusta ser una zorra, j'aime être une salope, et les paroles c'est je préfère masturber plutôt que d'être avec toi ou coucher avec toi, ça me ferait pas du tout triper ça, mais par contre me branler seule sur mon lit, ça m'éclate. J'aime être une salope, j'aime être une salope, j'aime être une salope. Et elle se faisait régulièrement huer en concert punk avec des bons gars, avec des crêtes en face qui voulaient les tabasser parce qu'elle chantait qu'elles aimaient être des salopes. Ou Inquisition aussi, qui est un de leurs grands tubes. Elles ont même fait un clip pour la TBE, genre l'équivalent de TF1 espagnol, qui est passé et ça a été scandale. C'était sur la chanson J'aime être une salope. Donc voilà, là on remonte de plus en plus dans les années, on s'approche de plus en plus à maintenant.
Donc, Barbie aime se masturber, pas besoin de canne pour s'éclater.
J'en ai un autre sur Barbie.
Et là, on va écouter donc la chanson de Las Vulpes, Me gusta ser una Zorra. Voilà, Las Vulpes, c'est très bien. Et oui, donc voilà, on revient dans les années 90, donc il y a de plus en plus de mouvements, le queer devient un peu à la mode, de plus en plus connu, des années 80, mais c'est plutôt dans les 2000 que ça devient un peu à la mode, fin 2000. Donc voilà, il y a de plus en plus d'événements qui se font, il y a les Lady Fest, c'est des mouvements, on peut retrouver la pensée, par exemple, lesbienne radicale à l'intérieur, où il y a certaines meufs lesbiennes radicales qui vous proposent des ateliers, des choses comme ça. Il y en a, je sais qu'il y en a en Indonésie, il y en a dans à peu près... Oui, bon, bah, je crois à peu près tous les continents, sauf l'Afrique. Donc voilà. Donc bon, c'est pas non plus très universel, mais il y en a beaucoup. Il y a aussi des queer options qui ont lieu une fois par an, une fois tous les deux ans, qui réunit plusieurs milliers de personnes. Donc transpédéguines, surtout. Donc voilà.
Et... Attention, hein, parce que si tu dis, si tu rapproches le queer des lesbiennes radicales, ils vont t'embêter avec ça. Faut pas être d'accord.
Non, c'est différent. Non, mais là, et puis ça questionne aussi les alliances qui sont faites, par exemple, par les lesbiennes féministes, parce qu'il y en a qui vont choisir de faire, par exemple, des alliances avec des PD et qui sont pas. Enfin, il me semble pas que ça soit trop la logique lesbienne radicale et d'autres qui vont pas choisir ces alliances-là. Donc il y a pas mal. Voilà, de trucs d'alliance qui peuvent être intéressantes à regarder, mais on n'a pas trop le temps de trop en parler. Donc voilà, et là, on va faire une petite interview de notre invité. Donc voilà. Quel est ton parcours politique ?
Oh là là, mais à chaque fois, c'est une question qui me bloque. Alors mon parcours politique, alors déjà, moi je dois préciser que j'ai 42 ans, donc je fais partie d'une génération qui a un peu échappé au début au bonheur de ces luttes féministes et lesbiennes. Donc quand moi j'étais jeune et que j'avais 20 ans, je ne connaissais pas l'existence des luttes féministes et lesbiennes. Enfin je ne les voyais pas en live en tout cas. Mais bon, j'ai grandi dans un quartier populaire, peut-être que c'est un rapport. Et que j'ai découvert ça très tard et avec des filles beaucoup plus jeunes que moi. Donc le féminisme, je l'ai découvert dans les années 2000. Enfin, j'avais déjà lu des choses, mais on va dire découvert des militantes féministes actives dans les années 2000, où, à l'occasion en fait, d'un événement qui a eu lieu à Strasbourg, le No Border, et où je suis tombée sur des féministes, plutôt anarcha-féministes. Donc. Et voilà, ça, on était plusieurs filles de Strasbourg à être bien tentées par ça, et on a se lancé là-dedans après.
Ok. Et comment expliquerais-tu ton féminisme ?
Alors, dans un premier temps, en fait, il y avait une espèce de... Enfin, la pensée féministe, j'ai commencé vraiment dans les années 2000 à réfléchir et à lire tout ce qui était possible et inimaginable qui a été écrit par les féministes. Mais en fait, de fait, j'avais des stratégies depuis toute jeune. Enfin, pas envie de soumission. Déjà, j'étais pas monogame, j'étais bisexuelle. Avec les mecs, je prenais des initiatives. J'ai très vite eu envie... de pas faire comme on attendait de moi. Enfin, je me souviens de ma maman qui essayait de m'expliquer, mais il faut que tu leur donnes l'impression que l'idée vient d'eux. Et non, en fait, ça m'arrangeait pas parce que je m'attirais tout un tas de mecs qui m'intéressaient pas. Et, voilà. Et en fait, quand il y a eu No Border, j'ai compris un truc, c'est que je pensais pas être une femme opprimée, surtout que j'ai une grande gueule et que dans les réunions mixtes, je faisais comme les mecs. Donc, et c'est en étant dans un espace, on va pas dire que c'était idéal, mais dans un espace un tout petit peu moins sexiste que la rue, que j'ai compris qu'il y avait un problème, en fait. Il y avait un gros problème. Voilà. Donc, je vais pas parler du parcours intellectuel qui en a suivi. J'ai vu aussi que ma bibliothèque était bourrée de bouquins écrits par des mecs blancs et que ça allait pas. Mmh. Donc, reconsidérer ma culture, etc. Voilà.
Est-ce que tu milites avec des hétéras ?
Bah oui, forcément. Dans les groupes féministes, on est mélangés. Ça m'est même souvent arrivé d'être la lesbienne de service. Enfin, je dois préciser au passage, ça fait pas longtemps que je me définis officiellement comme lesbienne. Avant, comme beaucoup de filles, je disais je suis tout, rien, bisexuelle peut-être, ou tri ou quadri, j'en sais rien. Et oui, mais ces dernières années, j'ai décidé que quand j'intégrais un collectif féministe, je préfère quand on est au moins autant de lesbiennes que des terrains, parce que c'est fatigant, en fait. Quand on n'est que dans un point de vue hétérocentré, et c'est difficile, en fait, c'est comme c'est difficile de faire comprendre aux mecs qui sont dans un point de vue androcentré, c'est difficile de faire comprendre à des hétéras qu'elles sont dans un point de vue hétérocentré. Si. Donc il faut être, oui, il faut qu'il y ait moite-moite, quoi.
Te sens-tu proche d'autres luttes ? Et si oui, est-ce que tu fais des trucs dedans ?
Alors oui, je me sens proche. Enfin, je veux pas qu'il y ait assis. Enfin, moi, je sais que je suis mal à l'aise avec quand Monique Wittig, elle dit nous, les lesbiennes, c'est comme les nègres marrons. Je trouve que c'est absolument pas comparable. Les luttes, enfin l'esclavage et les luttes pour la libération de l'esclavage, enfin, c'est quand même quelque chose de... Enfin, je trouve que venant d'une blanche, c'est prétentieux de comparer. Voilà. Par contre, moi, je me vois pas seulement comme personne opprimée, mais aussi comme oppresseur. Donc, oui, je suis sensible aux luttes anticoloniales et j'essaye, voilà, modestement, à ma façon, localement, là, quand c'est possible, de participer... à ces luttes, voilà, ou de les soutenir ou de participer.
Ok. Et c'est quoi le lien entre ta sexualité et le mouvement féministe ?
Oui, alors ça, c'est compliqué d'y répondre parce que ben, moi, j'ai couché avec des femmes bien avant d'être féministe. Et j'ai longtemps pas pensé à le politiser. En fait, longtemps, je me suis dit, ben voilà, pour moi, il n'y a pas de barrière de genre. Je désire des femmes, je désire des hommes. Et en fait, quand je suis devenue féministe, j'ai pas tout de suite pensé à politiser mon attirance pour les femmes ou les non-hommes, parce que il y avait aussi, voilà. Et par contre, c'est insensiblement, en étant féministe, ben du coup, mes exigences, elles se sont, on va dire, déplacées, etc. On va dire que j'ai arrêté de désirer les hommes, voilà, parce qu'ils m'emmerdaient. Donc de fait je suis devenue quasiment complètement lesbienne, ou pas que lesbienne, puisque finalement je peux désirer des personnes trans ou intersexes, etc. Et le fait de me définir comme lesbienne, c'est politique, et c'est lié à un événement local à Strasbourg qui date d'il y a quelques années, où deux lesbiennes se sont fait massacrer la tête en pleine place publique devant plein de gens. Les gens n'ont pas réagi, ils ont laissé les mecs les tabasser. Et là, je me suis dit, bon, moi, j'ai un confort social qui fait que je peux me permettre de dire à tout bout de champ que je suis lesbienne. Et comme il faut que les gens s'habituent, à chaque fois que je me retrouvais avec des gens en mixité, majorité hétérosexuelle et tout, je disais bonjour, voilà, moi, je suis Gwyn. Je dis comme ça, ils s'habituent.
Si je te dis Gwyn, tu penses à quoi ?
Oui, ben pour moi c'est un terme qui marque une radicalité par rapport à lesbienne. J'aime beaucoup le mot lesbienne en fait. Mais Gwyn, c'est une façon de dire que, par exemple, ma préoccupation principale, c'est pas que défendre l'accès au mariage homosexuel ou à la parentalité, même si, toute radicale que je suis, je vais aussi défendre ça, voilà, parce que je trouve que tant qu'on n'a pas fait le grand soir, tout le monde doit avoir les mêmes droits, mais voilà, j'ai envie d'aller plus loin. Je suis quand même très attachée à ce que dit Monique Wittig, ce qu'il faut détruire, c'est le système politique hétérosexiste, et que donc tout est bon pour détruire ce système.
Et on revient un peu sur des trucs avant, mais t'as fait ton coming out, genre à quel âge, vers qui,
tout ça. Très jeune, à 38 ans, je crois, ou tout. Mais je pense qu'avant, j'étais dans une position, on va dire, très traître, c'est-à-dire où je bénéficiais des avantages de l'hétérosexualité sans en... Voilà, et du coup, avec... Je ne comprenais pas en fait, la nécessité de dire que j'étais lesbienne. Il a fallu un événement, un truc violent qui touche des lesbiennes pour que je comprenne qu'il fallait que je dise. Voilà. Mais sinon, c'est, comment dire, c'est très curieux parce que du coup, oui, je fais un coming out parmi mes proches, mes alliés politiques. Je ne l'ai pas vraiment fait à mes parents. Je le cache pas et je le dis pas. Alors ça donne qu'ils le voient pas, parce que ça les intéresse. Je pense que ça les arrange de pas le voir. Mais en même temps, enfin voilà, c'est absolument pas caché. C'est-à-dire. Et pour moi, ce qui est plus difficile, c'est de faire un coming out de ce que je suis vraiment, parce que je suis une lesbienne mariée. Je vis avec mon mari et ma fille. Mon mari sait que je suis lesbienne. Et ça, c'est très bizarre pour tout le monde, y compris pour mes copines lesbiennes. Bon, ça dépend, elles s'y habituent assez vite en général, mais voilà.
D'accord. Est-ce que... Ouais. Non, quelle place a ta sexualité dans ta vie?
Alors, en même temps, je trouve ça très important. Et en même temps, de fait, elle en a une, mais on va dire c'est très mental tout ça, parce que comme je suis un peu hors norme, comme je suis hors norme dans la norme lesbienne et hors norme aussi sur plein de choses... On va dire que j'ai pas souvent d'histoire et de relation, parce que je suis pas monogame, parce que l'amour c'est un truc qui... Enfin pour moi c'est une idéologie, donc je suis pas très romantique non plus, même si je suis très affectueuse. Donc on va dire, voilà, de fait j'ai pas tellement d'activité sexuelle. Donc on va dire que de ce côté-là ça prend pas beaucoup de place. Après dans mes réflexions politiques ça prend beaucoup de place, oui. Je trouve que le sexuel est politique.
Et est-ce que t'as l'impression... Je sais pas, que ça soit dans le milieu anarcha-féministe, que dans le milieu lesbien, de l'existence de certaines normes, genre physique, pratique sexuelle, exclusivité ou non-exclusivité.
Oui. Il y en a des deux côtés. C'est parfois super lourd. Et comment être rapide? Alors, il y en a chez les lesbiennes. Alors maintenant, je vais relativiser. Je parle des lesbiennes que je connais, donc plutôt sur Strasbourg, ou que j'ai pu croiser. Moi, ça me pèse chez les lesbiennes la norme de la monogamie. Parce que, en fait, ce qui me pèse, c'est pas tant que peut-être moi, ça peut faire fuir les nanas quand je leur dis que je suis pas monogame. Mais parce qu'il y a beaucoup de biphobie, par exemple. Et que pour les phibies, je trouve ça vraiment violent. Parce que du coup, elles sont nulle part à leur place et enfermées dans le monde des hétéros, ce qui est pas marrant non plus. Chez les lesbiennes, à Strasbourg, on souffre pas trop des normes butch fame, etc. Enfin, de ce côté-là, elles sont pas mal ouvertes. Je trouve qu'il y a des lesbiennes qui sont transphobes, surtout avec les FTM, c'est-à-dire filles vers garçons. Mais on n'en souffre pas trop à Strasbourg. Mais ouais, c'est pesant. Après, chez les anarcha-féministes, je sais qu'il y a beaucoup d'anarcha-féministes qui doivent nous écouter. Alors, moi, ce qui me choque toujours dans les rencontres anarcha-féministes, c'est que quand j'arrive quelque part, j'ai trop la sensation qu'il y a plein de Gwyn. Parce que quand on les écoute, ça a l'air trop branché d'être lesbienne et trop nul d'être hétérosexuelle. Ce qui limite me met mal à l'aise, d'ailleurs. Je me dis, les pauvres hétéros qui sont dans le coin, ça doit être... Enfin, c'est aussi assez excluant. Et en fait, au bout d'un certain moment, je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas tant de Gwyn que ça. Qu'on peut même être une toute petite minorité à être réellement Gwyn. Et du coup, je me dis, c'est le...
Finis ta phrase et puis ça va être la prochaine émission après.
Ok, Voilà, je me dis que c'est peut-être là la pensée lesbienne radicale qui nécessite d'être visitée et mieux comprise.
Ok. Et on finit quand même sur une petite information. C'est que lors d'une agression, je sais plus où est-ce que c'était. C'était 9 personnes qui étaient en train d'essayer de...
Ah non, Chambéry.
À Chambéry. À Chambéry, qui essayait de taper deux trans. Et comme l'une était, je crois, prof d'escrime et l'autre prof de Krav Maga, eh ben, elles ont dérouillé 9 personnes. Enfin, elles les ont fait fuir. Et du coup, c'est plutôt la classe, parce que voilà, un peu d'autodéfense, c'est la classe.
Eh ben, on aurait bien continué, mais là, il y a une autre émission qui enchaîne et qui nous demande de terminer notre émission. Du coup, dans deux semaines, pour l'émission de la Déprave, et dans la semaine prochaine, pour l'élite, Martine et les autres.
Ouais.
Et n'oubliez pas, le 1er mai, hein, le mot d'ordre, c'est... Quoi cette année, prolétaires de tout pays, caressez-vous. Non, pour en trouver des nouveaux. Et rendez-vous au 1er mai avec vos banderoles.
Et vos sextoys.
Voilà.
Au revoir.
Ciao.
Salut.